Samouraï, les Nantais ont des choses à écrire sur Jet FM 91.2.
Elles étaient une quinzaine de femmes à travailler sur son exploitation, sur le vaste champ qui s'étendait à flanc de colline, bombé comme une voûte crânienne. À l'approche de ce matin-là, les corneilles s'envolèrent des sillons avec des cris sinistres. Zyglinde était mieux là qu'au camp. Certes, il faisait froid. Certes, la faim venait plus vite avec l'effort, mais elle se sentait en sécurité auprès de toutes ces femmes qui, malgré leur malheur, malgré les mois de privation, la séparation d'avec leur mari, semblaient trouver encore le courage de faire des blagues qu'on ne pouvait auparavant que chuchoter entre gens de confiance et qui se racontaient désormais au grand jour. Ah, qu'ils sont passés vite les 1000 ans de notre Reich, plaisantait Gertrude, et les éclats de rire des autres saupoudraient un peu de bonheur sur ce jour sans sève, et la scène tournait à l'avalanche de facéties pour lesquelles on aurait risqué sa vie il y avait encore peu de temps. « Et vous la connaissez, celle-là ?» s'exclamait une autre femme. « Hitler visite un asile de fous. Heil Hitler !» le salue tous les patients, sauf un. Alors Hitler s'approche et s'emporte. « Et je peux savoir pourquoi vous me saluez pas ?» Et l'autre lui répond « Je suis pas fou, je suis le directeur de l'asile. » Et même les plus réticentes, même celles qui avaient cru avec le plus de ferveur à la propagande du Reich, semblaient se prendre au jeu. Les mines fermées se détendaient peu à peu et des sourires presque adultères venaient se peindre sur leurs faces rigides. « Ah, quelle histoire quand même !» s'exclama Gertrude soudain sérieuse. « Quoi ?» demanda Hildegarde. « Eh bien tout ça !» répondit la charcutière, montrant d'un large mouvement de bras la vallée qui s'étendait devant elle. « Tout ça pour ça !» Toutes restèrent silencieuses un instant, interloquées par ce revirement d'humeur. « Quand on pense à ce qu'on voulait conquérir et à ce qu'on a aujourd'hui, c'est à en pleurer. Le Reich pour mille ans, le Reich pour mille ans, mon cul, alors qu'il ne nous reste que nos mains pour gratter cette terre et nos pieds pour la fuir comme des chiens. C'est notre terre !» « Ma famille y repose depuis 1614 », s'emporta Freud Griesel. Son mari avait été un membre actif du parti des Sudètes, exécuté le jour de la libération. « Comment peux-tu dire tout ça, vieille peau? Comment peux-tu te déshonorer pareillement ceux qui ont donné leur sang ? Peu importe ce que nous imposent ces Slaves, même s'ils nous réduisent à l'esclavage, ce sera toujours notre terre. « Cette terre n'est que de la terre », rétorqua Gertrude en lui envoyant une poignée de glaise humide. « Ça n'a jamais appartenu à personne. » Ou seulement à ceux qui tenaient les fusils.
Bonjour Timothée de Meyer.
Bonjour.
Alors merci de nous accueillir pour parler ensemble de votre dernier roman publié chez Asphalt, Le tumulte et l'oubli. Alors ce livre, c'est une grande fresque romanesque et historique qui débute en 1938 et qui nous emmène jusqu'au début des années 2000. Et dont le point d'ancrage est la ville de Jedlov, une ville que l'on devine au nord de la Tchécoslovaquie, une ville fictive mais qui à elle seule symbolise toute cette région de la Bohême, particulièrement bouleversée par l'histoire du XXe siècle, et où se sont joués des destins complexes et compliqués de femmes et d'hommes, allemands, tchèques, tziganes, à l'image des destins de vos personnages. Alors on suit plus particulièrement trois femmes et à travers elles trois époques. Tout d'abord Sieglinde, une jeune femme allemande dans les années 40, amoureuse secrètement d'un jeune tchèque, Mirko. Puis Ivetka, une femme tzigane en quête d'émancipation dans la société communiste. Et enfin Teresa, une jeune Rome qui cherche sa place et peut-être aussi celle de son peuple dans cette nouvelle Tchécoslovaquie de la fin des années 90, cette caricature de l'anarchie comme la qualifie un de vos personnages. Alors ce qui frappe d'abord, c'est la densité de ce récit. Puisqu'à partir des histoires de ces trois femmes, vous avez tissé celle d'une multitude d'autres personnages qui apparaissent au fil des pages, de différents destins qui s'entremêlent sur des décennies, et cela sans jamais perdre votre lecteur. Alors on a très envie de comprendre comment on s'y prend pour écrire un livre si riche, mais dans un premier temps, Timothée de Meyer, est-ce que vous pourriez nous expliquer quelles sont les raisons qui vous ont poussé à écrire ce roman? Pourquoi cette région du monde? Y a-t-il un attachement particulier? Alors l'éditeur nous confie en quatrième de couverture que cette histoire est inspirée de votre histoire familiale. Alors qu'avez-vous injecté de votre histoire personnelle?
Alors,
C'est un roman, en effet, qui m'a demandé beaucoup de temps d'écriture, beaucoup de temps de travail, et qui, alors qu'il y a plusieurs genèses. La première, c'est ça, c'est mon histoire familiale. C'est que moi, je suis d'origine allemande, ma mère est allemande, et mes deux grands-parents étaient des Allemands des Sudètes. Et pour moi, c'était quelque chose d'assez distant. Je ne comprenais pas vraiment ce que ça voulait dire. Je pensais qu'ils étaient tchécoslovaques ou qu'ils venaient de l'Est. Et c'est que plus tard que j'ai appris leur histoire, c'est-à-dire qu'ils ont été déplacés à la fin de la Deuxième Guerre mondiale comme des millions d'Allemands à l'époque, donc qui était un des plus grands mouvements de population de l'histoire, mais dont on parlait pas ou peu, parce que c'était les bourreaux de l'histoire et qu'ils méritaient leur sort d'une certaine manière, et aussi parce que pour eux, c'était tout un pan de leur histoire qu'ils voulaient oublier et dont ils ne se sont jamais confiés. Et donc c'est bien plus tard, quand j'ai vécu en Tchéquie, dans le cadre de mes études, que je me suis un peu intéressé à cette histoire et que j'ai trouvé quelque chose d'assez significatif, à la fois dans cette histoire personnelle et dans ce qu'elle racontait de l'époque dans laquelle on vivait aujourd'hui, dans cette manière dont les régimes vont vouloir imposer une forme de dogme, une forme d'idéologie, et dont les victimes sont souvent les personnes qui vivent sur ces territoires-là. Donc c'est un peu ce que cette histoire elle raconte, qui est à la fois une forme de... en lien avec mon histoire. J'ai voulu, on va dire, raconter un petit peu une partie de mon histoire familiale, tout en faisant quelque chose de fictif, mais aussi à travers cette histoire de faire quelque chose, une forme de fable un peu plus universelle sur le destin de ces régions disputées, arrachées par l'histoire.
Oui, alors c'est vrai qu'on apprend beaucoup de choses. Hein. Alors, au-delà du plaisir qu'on a à lire et à suivre l'histoire de ces personnages, on apprend beaucoup de choses sur le plan historique, sur le sort réservé aux Allemands, comme vous dites, après la chute du Reich, sur les mécanismes d'acculturation orchestrés par le régime soviétique, sur les conditions de vie et l'histoire des peuples tziganes. Donc, vous parlez de votre histoire personnelle. J'imagine qu'il y a eu aussi du temps de recherche, d'archives, de recherche historique. Du coup, quelles étaient vos sources, quelles étaient vos ressources ?
Alors en effet, c'est un livre qui a demandé beaucoup de travail, de documentation, beaucoup de travail de recherche, pour toutes les parties notamment très historiques, c'est-à-dire ce qui se passe dans les années 45-46, juste après la Deuxième Guerre mondiale. Sur cette question des Allemands des Sudètes ou du déplacement des Allemands des Sudètes, il y a pas mal de documents, de documentation. C'est quelque chose qui est très documenté. Il y a beaucoup d'associations, notamment en Allemagne, d'anciens, qui sont assez actives. Et donc, c'est relativement facile d'entrer en contact soit avec quelques témoins qui restent de cette époque, même s'il y en a de moins en moins du fait de leur âge, et aussi de nombreux documents, de documentation sur cette époque. Ce qui a été peut-être pour moi un petit peu plus dur, c'est de retravailler sur le destin des tziganes dans les années 50-60, ce qui est une question qui est un peu moins traitée, avec des documents un peu moins présents, moins sourcés, et surtout avec une volonté quand même de rester attaché à une forme de véracité, ou en tous les cas de réalisme dans la manière dont je traitais mes personnages. Donc ça a demandé un petit peu plus de recherche, notamment avec des universitaires, avec des chercheurs qui avaient travaillé cette question. Moi, je m'étais aussi intéressé personnellement aux tziganes dans le cadre de mes études. J'avais fait mon mémoire de fin d'études, et j'avais voulu commencer une thèse sur cette thématique-là, mais c'était sur la question tzigane de manière plus contemporaine, à partir des années 90, donc j'avais peut-être moins ces éléments historiques, en tous les cas. Donc ça a demandé de la recherche. Donc beaucoup de discussions, beaucoup d'entretiens, et beaucoup de temps passé aussi dans les archives, notamment en Tchéquie, dans différentes archives, pour essayer de retrouver de la matière, même des extraits de journaux, des journaux locaux, des journaux régionaux, ce qui semble être très anecdotique, mais qui finalement raconte aussi beaucoup par ses détails, par ses micro-histoires, d'une grande histoire, justement, quoi, du destin d'individus dans la grande histoire.
Bien sûr. Alors, en toile de fond, il y a cette ville de Jedlov, qui en réalité occupe une place de personnage à part entière, hein, peut-être même la première, puisque les lieux que vous décrivez sont ceux que vos personnages vont arpenter, fréquenter au fil des pages et des décennies. Donc, on y retrouve une place, une taverne, une rue, comme ça, de manière récurrente. Alors, bien sûr, ce territoire, il est malmené, presque traumatisé. La ville elle-même change de nom. Jedlov devient Tannberg en 1938 avant de reprendre son nom en 1945. Donc les lieux changent de fonction, mais tout de même ce paysage, ce territoire, il est posé là, un peu inébranlable, et il assiste impuissant, mais surtout indifférent le plus souvent, au tumulte provoqué par les hommes et par leur ambition de conquête territoriale et idéologique. Est-ce que vous voulez nous en dire plus de ça sur la place que vous avez accordée au territoire, parce que c'est un peu vrai aussi dans vos autres... Enfin, vous vous attachez beaucoup à la géographie humaine aussi.
Alors, c'est sûr que c'est une question, tout ce qui est la question géographique qui me passionne, cette question de frontières aussi, qui est une question très mouvante, qui va être instrumentalisée, qui va être vivifiée par des régimes, et puis finalement effacée, et puis on va... Voilà, je trouve que c'est quelque chose qui me paraît assez passionnant, la manière aussi dont la symbolique, dont la linguistique, le fait de nommer telle ou telle chose de telle ou telle manière dit aussi beaucoup du sens et dénote aussi beaucoup d'une époque. Et donc cette ville, en effet, c'était au départ le personnage principal, comme vous l'avez dit. Je voulais même faire que tout le livre soit raconté par cette ville, que ce soit elle qui parle à la première personne et qui nous raconte l'histoire de ces hommes, de ces femmes qui la peuplent et qui finalement refont les mêmes erreurs. Alors, sans vouloir dire que l'histoire se répète, parce que c'est jamais tout à fait le cas, mais en tous les cas, les mêmes mécanismes reviennent.
Il y a quelque chose de cyclique,
en effet. Ouais. Et donc, je trouvais ça intéressant. Alors, le seul problème que me donnait cette construction, c'était que parfois, on s'éloigne de cette ville. On va quelquefois un peu en Allemagne, un peu à Prague, dans d'autres endroits du pays. Et donc... le fait de cet éloignement me posait question dans le processus narratif. Et donc elle est rentrée finalement dans le rang au titre de personnage normal, mais c'est vrai qu'elle est elle joue un rôle prédominant, et c'est peut-être le personnage auquel je suis le plus attaché. Et à travers elle, on la voit en effet de manière très j'ai tenté de dresser une ville de manière la plus réaliste possible. J'avais même dessiné une petite carte où on voyait les rues pour que moi-même je puisse m'orienter au fil des époques. Et on la voit évoluer, se métamorphoser, être détruite et reconstruite par les hommes, par les régimes, par les idéologies qui chacun tente de la modeler à leur manière. Et donc on voit en effet cette l'évolution de la ville avec l'évolution des hommes et du temps. Et en effet, et ce que vous disiez sur les noms, c'est aussi important. C'est que voilà, comme je disais avant, chaque régime va tenter d'imprégner son idéologie ou sur la ville, sur les lieux notamment, et ça passe par les noms, notamment les noms de rues qui vont changer de l'époque allemande, de l'époque nazie, puis ensuite de l'époque tchèque et même de l'époque communiste. Et au sein de l'époque communiste, il va y avoir même plusieurs phases où en fait des places, des rues vont être renommées, puis ensuite avec l'économie de marché, tout va à nouveau être bouleversé. Donc voilà, c'est ce changement que j'ai voulu souligner.
Je trouve que du coup, ça nous fait poser la question un peu des échelles, puisque du coup, comme ce paysage, il est là prédominant, enfin ce territoire, il est là prédominant, tout de suite, ça remet un petit peu l'homme à sa place, pour parler un peu familièrement. Et ça nous pose la question du choix, parce que pris dans ce tumulte, donc, la capacité à faire des choix de vos personnages semble vraiment toute relative. En tout cas, leur pouvoir de décision ne se joue que dans le cadre posé par des contextes politiques successifs. En tout cas, c'est ce qui transparaît. À un moment, vous écrivez « Ils rejoignirent la masse anonyme des corps broyés, ressources indispensables à la mise en place de toute idéologie. Ces générations de poussière dont la vie n'aura rimé qu'à bâtir le monde des autres. » Alors, selon vous, la condition de la plupart des hommes, est-ce que c'est d'être comme dépossédé de libre arbitre, de vivre une existence un peu dénuée de sens profond, comme on pense un peu au personnage de Mirko, là?
Alors, je pense pas que l'essence soit justement d'être dépossédé de tout sens dans sa vie, mais je pense...
Une plus large
sincèrement,
échelle.
Voilà, mais je pense sincèrement qu'il y a... qu'on ait des... Voilà, que nous vivons dans des formes de cycles contre lesquels on peut difficilement lutter. Et c'est peut-être quelque chose de très... c'est, je pense, une forme de considération qui est tout à fait contestable, et je serais ravi d'avoir des gens qui parviendraient à me convaincre du contraire, mais qu'en effet, on est souvent soumis à des éléments extérieurs, à des formes de grandes phases, qu'elles soient économiques, idéologiques ou autres, et contre lesquelles on peut tenter de lutter, on peut tenter de s'opposer, on peut infléchir légèrement ça, mais il y a quand même une forme de lame de fond qui finalement vont dominer nos... nos existences. Et ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre heureux ou vivre librement au sein de ces phases-là, mais en tous les cas, qu'il y a peut-être ces formes de marées, de vagues qui nous dépassent. Et pour un exemple très concret, on voit là, actuellement dans l'histoire contemporaine comment depuis quelques années, on entre dans une forme assez forte de conservatisme, quelque chose d'assez réactionnaire qui revient et qui semble malgré tout un tas de volonté de le stopper, de l'infléchir, qui semble assez inéluctable. Et donc voilà, c'est cette impression, en tous les cas, peut-être aussi due au contexte actuel qui a renforcé cette idée qui était déjà un peu ancrée chez moi, qu'on peut difficilement parfois lutter contre ça, qu'on est finalement un peu les sujets d'une histoire et de son histoire, en fait. Voilà.
C'est très palpable aussi à travers l'histoire de Teresa. Mais bon, oui. Il y a beaucoup de choses à découvrir. L'autre réflexion qui traverse également votre roman, c'est l'oubli, puisqu'après le tumulte vient l'oubli, ou avant le tumulte est venu l'oubli. Cette question, elle est soulevée à travers les histoires de vos différents personnages. Alors, ça prend plusieurs formes. Il y a l'oubli comme une nécessité pour avancer, pour réconcilier, pour reconstruire. Il y a aussi l'oubli contre lequel on se bat, avec férocité parfois, pour juger, parvenir à condamner, ou pour alimenter un travail de mémoire avec ce danger de ne se souvenir qu'à travers le prisme du présent. Et puis il y a l'oubli comme une fatalité, comme une force inexorable contre laquelle on ne peut lutter et qui finit toujours par engloutir le passé. Cette question de l'oubli, elle est toujours posée à l'échelle individuelle et sociétale aussi, dans votre livre.
C'est une très belle question. C'est ça, ces différentes formes d'oubli qui se mêlent et qui viennent peut-être, alors cet oubli individuel, à l'échelle individuelle, qui vient rajouter peut-être quelque chose d'assez inéluctable, d'assez finalement désenchanté au sort de ces petites histoires ou de cette humanité. Et puis, comme vous disiez, il y a aussi l'oubli plus choisi, en tous les cas sociétal, ou peut-être même historique, puisque c'est aussi la fonction de l'histoire, c'est de retenir certains faits qui font sens dans une forme de linéarité de l'histoire. Et en retenant certains faits, ça veut aussi dire en oublier des dizaines, des centaines, des milliers d'autres.
C'est aussi la fabrique des romans nationaux.
C'est la fabrique des romans nationaux, exactement. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces romans nationaux, comment cette histoire se construit, comment aussi elle se déconstruit selon les régimes. C'est-à-dire que le régime, lorsqu'on change de régime, on va aussi changer la manière dont on raconte l'histoire. On va aussi mettre plus ou moins en avant tel ou tel fait historique et donc gommer de manière plus ou moins volontaire ou consciente, en tous les cas, tel ou tel autre fait historique parce qu'ils rentrent moins, ils font moins sens dans cette volonté de raconter l'histoire. Et je crois que ce que ce livre raconte, c'est peut-être une autre conviction, c'est que l'histoire se raconte moins a posteriori que finalement par une sorte d'accumulation de hasards, de petites hésitations, de choses qui finalement vont faire du sens plus tard ou vont faire du sens dans la manière dont on veut raconter l'histoire, dans le sens où on va choisir de raconter tel événement et pas tel autre. Et donc voilà, il y a cette idée-là que la vie de ces êtres est parfois, ou en tous les cas que leurs histoires est parfois gouvernée par plus de petits hasards, de petites hésitations, de petites choses qui ont finalement contribué à créer cette grande histoire.
Il y a un des personnages d'ailleurs qui dit qui vit un grand événement de l'histoire du XXe siècle, qui dit je m'en suis pas rendu compte, j'étais là par hasard, je suis venu, j'ai vécu cette chose-là, mais c'est a posteriori que je me suis rendu compte que c'était quelque chose de décisif.
Mais c'est ça, je pense qu'il y a beaucoup d'événements, même peut-être des choses qu'on a pu vivre personnellement, qui nous semblent peut-être sur le coup des événements, certes, mais dont on perçoit peut-être pas l'importance historique. Et c'est seulement a posteriori qu'on pourra, quand on verra la suite des événements, qu'on pourra se rendre compte du rôle qu'ils ont joué. Et parfois, c'est même pas tellement l'événement en tant que tel qui a joué un rôle, c'est la manière dont cet événement va être instrumentalisé, dont les dirigeants vont pouvoir jouer avec cet événement pour justement s'en servir à leur fin. Je pense par exemple, en parlant de ça, aux guerres de Yougoslavie, qui était le dernier livre sur lequel j'ai travaillé, où pareil, ma question c'était un peu de parler de la genèse, de comprendre comment ont commencé ces guerres de Yougoslavie. Et ce qui était intéressant, j'ai fait beaucoup d'entretiens sur place avec des gens, j'ai parlé avec beaucoup de gens, et chacun y voyait une genèse différente. Mais en tous les cas, chacun avait son moment où la guerre a basculé, ou en tous les cas la société a basculé vers la guerre. Et c'était très intéressant de voir comment chacun avait son moment de bascule, avait son événement, parfois même très personnel,
sa propre lecture de l'histoire.
C'est ça. Mmh. Ouais.
Et ce livre, donc, c'est Demain la brume.
Alors ça, c'était Demain la brume, voilà. C'est ça qui est le précédent livre sorti en 2020, il me semble.
Oui, ouais, c'est ça. Alors justement, bah, ça va nous permettre d'enchaîner, c'est parfait, sur vos autres livres qui sont tous, je trouve, caractérisés par une écriture très généreuse qui révèle un sens de l'observation assez aiguisé. On se régale hein, des descriptions précises des personnages, de leurs pensées, de leurs attitudes, de ces détails anodins mais qui font toute une personnalité. Alors je parle d'un geste, d'une posture, d'une répartie. On sent que vous y prenez vraiment plaisir, le lecteur avec vous.
Alors, je pense qu'il y a eu peut-être une petite évolution entre les deux premiers, notamment le deuxième qui s'appelait Jusqu'à la bête, qui était un livre qui parlait des abattoirs, où là c'était vraiment une écriture beaucoup plus sèche, beaucoup plus nerveuse. Et puis après peut-être le Demain la brume et le tumulte et l'oubli qui sont plus dans cette écriture généreuse que vous décrivez, où il y a en effet cette volonté, je pense, de donner de la matière, de donner corps, de donner aussi, de faire, de beaucoup jouer sur le côté sensoriel de la lecture. Moi c'est vrai que c'est quelque chose que en tant que lecteur que j'aime, c'est-à-dire d'avoir l'impression de me retrouver plongé dans une époque, avec tout ce que ça implique en termes d'odeur, de sensations, de bruit, de voilà, pour pas simplement qu'on sache qu'on est dans telle année, mais que cette année-là vienne avec tout
qu'on
ce qui voilà qu'on la vive également. Donc c'est peut-être en effet de là que vient cette volonté de marquer peut-être de voilà ces détails en tous les cas qui ont pour moi du sens quoi, en tous les cas quand j'écris quoi. Ouais, c'est sûr.
Mais c'était déjà très présent dans Jusqu'à la bête. C'est vrai,
oui,
vrai que l'écriture
c'est vrai.
Est
non,
différente.
Oui,
mais
vous avez raison.
Ça, tout ces bruits, ces odeurs.
Oui, là, c'est vrai qu'il y avait le côté sensoriel qui était très fort. Qui était très fort.
Avec le clac
c'est
revient,
ça. Ouais, ouais. Alors peut-être l'écriture moins généreuse, mais en tous les cas,
oui,
il y avait, c'est ça qui avait le côté très sensoriel. C'est vrai. Ouais, ouais. Exactement.
Si vous deviez trouver un mot, justement, qui résumerait l'origine de votre projet d'écriture, que vous en trouveriez un.
Ah, c'est super dur. Un mot pour résumer l'origine de mon écriture. Je pense qu'il y a une forme de besoin. C'est peut-être une réponse très, très classique, très bateau de dire ça, mais je crois que je le sentais peut-être pas tellement au départ. Enfin, quand je dis au départ, c'est-à-dire quand j'ai commencé à écrire... à l'adolescence, en tous les, enfin voilà, peut-être pendant les années lycée où j'ai commencé à écrire à la fois, je pense, dans une volonté très naïve ou très immature, avec cette posture de l'écrivain, quelque chose peut-être de l'ordre de la fascination de cet écrivain germano-pratin, voilà, quelque chose d'assez comme ça, d'assez immature quoi, dans cette volonté là. Mais je pense qu'il y avait ce que je percevais moins, c'est qu'il y avait souvent une volonté de voilà, qu'il y avait souvent une forme de nécessité aussi d'écrire, parce que c'était à travers l'écriture je pouvais peut-être exprimer des choses que j'avais du mal à exprimer autrement, et je pense que c'est toujours le cas. Il y a beaucoup de choses que j'exprime dans mes livres que j'ai du mal peut-être à exprimer à l'oral, où je trouve que l'écriture permet davantage de poser des formes d'incertitude, de formes d'hésitation, de formes de nuances que la langue orale permet peut-être moins, fiche peut-être plus dans des formes de certitude. Et ça, c'est vraiment quelque chose c'est un ressenti personnel. Je pense que c'est une question qui peut être très différente. Des personnes pourront avoir justement un avis très différent là-dessus. Mais voilà, une forme de besoin. Et peut-être, je ne veux pas parler de besoin thérapeutique parce que ce n'était pas vraiment le cas. Mais en tous les cas, oui, il y avait quelque chose de l'ordre de
la nécessité.
De la nécessité, ouais, voilà, d'arriver à sortir des choses qui, peut-être sinon, trotter un peu trop dans la tête ou tourner un peu trop en rond dans la tête, une forme de voilà qui me procurait vraiment beaucoup de plaisir, beaucoup de satisfaction à la fin. C'est vrai qu'à la fin d'une journée où j'écris, où je voilà, je me sens bien, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose qui me
d'avoir organisé vos idées.
Ouais. Ouais, c'est ça.
Ouais,
ouais.
Ben merci. Est-ce qu'il y a, justement, parce que vous parlez de vos années lycée, alors est-ce qu'il y a des lectures qui auraient marqué votre expérience, justement, de lecteur et qui auraient pu être, peut-être sans le savoir à l'époque, à l'origine de votre vocation ?
Alors, je pense que j'ai eu comme ça des jalons à travers ma, comment dire, à travers ma, donc j'ai toujours beaucoup lu depuis que je suis enfant. J'ai toujours été très attaché aux livres, très attaché aux récits, aux histoires. Et je sais que, par exemple, très jeune, j'ai lu L'étranger de Camus. Alors, ce qui est vraiment ce classique de chez classique, et que j'ai relu peut-être une dizaine de fois ce livre. Et pendant, vraiment, je vous dis, entre l'âge de 12 et, enfin, ouais, peut-être 13 et 18 ans, je l'ai vraiment beaucoup relu. Et ça a été peut-être une première lecture très marquante. Après, adolescent, jeune, je lisais vraiment de tout et de tout ce que je trouvais. C'est-à-dire que j'avais pas une grande bibliothèque chez mes parents, il n'y avait pas beaucoup de livres d'où je venais, et donc je lisais un peu tout ce que je trouvais, quoi. Donc ça allait vraiment dans des trucs du Reader Digest, c'était un peu tout ce que je pouvais trouver. Et après, il y a eu, je pense, autour de la vingtaine, la découverte à travers mes études de personnes qui ont commencé à me conseiller, à me guider vers des choix de lecture. Et c'est là que j'ai un peu découvert toute l'écriture des écrivains américains, qui peut-être avaient une forme de liberté dans le style. Alors, quand je parle un peu de la Beat Generation, donc le Kerouac, Fante, Burroughs, etc., ou qui m'ont amené vers peut-être d'autres formes d'écriture que je trouvais peut-être moins précieux et moins guindé que ce que j'avais lu auparavant dans les romans français que j'avais lu auparavant, et qui m'ont fait comprendre aussi que la littérature était peut-être pas aussi inaccessible qu'elle me semblait a priori. Puis ensuite, voilà, il y a eu d'autres phases. Il y a eu toute une phase où je me suis beaucoup intéressé aux écrivains d'Europe centrale, d'Europe orientale, où j'ai beaucoup lu cette littérature-là, qui m'a aussi, je pense, beaucoup influencé parce que j'étais très intéressé par cette région. Et voilà, donc une forme d'évolution à travers le temps. Là, le dernier écrivain qui m'a beaucoup marqué, beaucoup influencé, c'est Bolaño, que je trouve vraiment très... et très récemment, Joyce Carol Oates, que j'ai découvert et que je trouve absolument incroyable dans son écriture. Donc voilà, donc c'est ces différents jalons. Et après, ce qui est intéressant, c'est quand je les relis parfois plus tard. Par exemple, j'ai relu Kerouac récemment, ou même Bukowski récemment, et j'ai trouvé ça vraiment pas très bon, quoi. Enfin, et en tous les cas, beaucoup moins inspirant que ce que j'avais trouvé à la vingtaine.
Des souvenirs que vous en aviez gardés.
Des souvenirs que j'en avais. Donc voilà, c'est intéressant de voir comment c'est des formes de jalons d'inspiration à un moment, mais quand on les relit 10 ans plus tard, c'est plus forcément le cas.
Oui, c'est ça, on n'est pas le même lecteur à 10, non, à 20, à 40. C'est vrai pour beaucoup de choses d'ailleurs. Alors, est-ce que vous avez des rituels d'écriture ? Est-ce que vous vous mettez, quand vous vous mettez au travail, est-ce que vous considérez évidemment toujours ça comme une forme de travail ? Est-ce qu'il y a des contraintes que vous vous imposez ?
Oui. Alors, c'est sûr, sur l'écriture, c'est il y a des formes de rituels. Ça devient une forme de travail. Et comme je pense n'importe qui à son poste de travail ou devant son métier, on a une forme assez précise, parfois presque maniaque, de faire les tâches qu'on a. En tous les cas, ça, à nouveau, c'est une forme d'évolution par rapport peut-être au premier texte que j'ai écrit, ou même à mon premier roman, où j'ai resté dans cet imaginaire très romantique de l'écrivain torturé qui revient ivre à 2h du mat et commence à écrire son chef-d'œuvre. Et qu'en fait, c'est nul, quoi.
C'était fulgurant, mais c'était...
Ouais, voilà, c'était fulgurant, mais vraiment une fulgurance alcoolisée, quoi. Et je pense que maintenant, il y a, voilà, une forme de côté, de travail, une tâche. Alors, souvent, j'écris par phase. J'ai du mal à pouvoir écrire une heure par-ci, une heure par-là. J'ai souvent besoin, quand je travaille notamment sur un roman, d'avoir des phases un peu plus longues, qui sont des phases peut-être de plusieurs semaines ou un mois consécutif, où je peux vraiment m'y mettre quotidiennement. Pour rester dedans, pour rester dans l'histoire, dans la tâche. Et voilà, donc c'est vraiment des journées de travail assez classiques. J'ai des formes de listes, je me fais des listes de choses. Alors, j'ai parfois, quand je lis beaucoup pendant l'écriture, donc je note des phrases, des idées. Souvent, les lectures vont me donner, vont me stimuler, des formes de... Ça va me donner des idées sur ma propre écriture. Alors, j'ai peut-être cet objectif un peu stupide, mais quand je me mets au travail le matin, je me fixe un objectif de mots pour l'écriture pour la journée. Je me donne 2000 mots d'écriture, ce qui va aller selon les jours. Parfois, j'ai vraiment une forme d'inspiration, de flow assez et que les 2000 mots vont être atteints assez rapidement, en quelques heures, et d'autres journées où c'est vraiment très compliqué, et là où on sort assez frustré de l'écriture. Voilà. Et puis souvent, le lendemain, je reprends ce qui a été écrit la veille, je retravaille un petit peu ça avant de me relancer dans la suite, quoi. Voilà, donc c'est un peu cette manière d'écriture sur mes textes. Ouais.
Alors, est-ce qu'on pourrait évoquer maintenant vos projets futurs, puisque
Oui.
vous revenez justement d'un séjour outre-Atlantique?
Oui, c'est
C'est
ça,
ça?
exactement. Alors j'ai un projet de BD, de roman graphique que je coécris avec Grégoire Ossoa, qui est l'auteur avec qui on avait déjà écrit un livre qui s'appelait Voyage au Liberland,
Oui.
qui était un livre donc de non-fiction. Donc là c'était de l'ordre quasi journalistique, qui avait été publié aux éditions Marchiali. Et donc là, c'est un projet de BD sur un conseiller politique américain qui a travaillé dans les années 70, 80, 90, enfin d'ailleurs jusqu'à sa mort, et qui a voilà, travaillé sur de nombreux conseillers, enfin de nombreux hommes politiques conservateurs ou républicains aux États-Unis, et qui a, par sa manière de faire de la politique, participé grandement à ce qu'on peut voir aujourd'hui sur cette grande révolution conservatrice à laquelle on assiste aujourd'hui, quoi, qui est assez pionnier dans ça. Et c'est quelqu'un de l'ombre, voilà, qui donc c'est un projet de BD. Et puis sinon, j'ai également un roman jeunesse qui sort au mois de mars,
D'accord.
À l'école des loisirs, voilà, sur l'histoire d'une petite fille qui rêverait de devenir licorne et qui va devenir licorne, qui se métamorphosait et sa vie devient un enfer, pas possible.
C'est pas vrai. Vous allez
Si,
détruire le
je
rêve
vais détruire le rêve des licornes.
de toutes les petites filles de
Ouais,
cette
c'est ça.
génération. Eh bien, merci beaucoup pour cette discussion très, très plaisante, très enrichissante.
Bah, merci à vous.
Dernière question en guise de générique, mais en fait, vous nous avez aidés puisqu'on discutait tout à l'heure avant de commencer cet entretien. Vous êtes publié du coup chez Asphalte et cet éditeur choisit de proposer une playlist au lecteur, mais qui a quand même été élaborée par l'auteur, en l'occurrence par vous. Donc, vous nous proposez plusieurs titres. Alors, si vous deviez en choisir un, ou même en dehors de cette playlist-ci, mais une musique qui pourrait être associée à votre univers, à vos besoins justement d'écrivain. C'est difficile.
Alors je vais reprendre la playlist, et il me semble que alors sur ce livre-là, c'est vraiment des chansons que j'ai écoutées pendant l'écriture du texte. Alors que souvent, des fois, j'essaie aussi d'y mêler des chansons qui sont soit citées dans le texte, ou alors en tous les cas des musiques qui me semblent en lien avec l'histoire. Mais là, si je dois en choisir un, je vais choisir A Silver Monte Zion, avec une chanson qui s'appelle God Bless Our Dead Marines, qui est une chanson très longue, un rock progressif, et que j'écoutais un peu en boucle
D'accord.
pendant l'écriture de ce texte, et qui a, je pense, peut-être dans ce côté assez, comment dire, dans cette forme assez progressive, mais peut-être assez sombre aussi, un peu imprégnée l'écriture du texte. Voilà.
Merci. Eh bien,
Merci.
on va l'écouter maintenant alors.
They put angels in the electric chair, the electric chair, the electric chair. Straight up angels in the electric chair, the electric chair, the electric chair. They put angels in the electric chair, the electric chair, the electric chair. Straight up angels in the electric chair, the electric chair, the electric chair. And no one knew or no one cared, but burning stars lit up their hair, and burning stars lit up their hair, and crawled to heaven on golden stairs. And oh, how we two and fro, two and
this fresh maid in the club tonight. God bless our dead Marines. Someone had an accident above the burning trees. Well, somewhere distant, peacefully, our vulgar princess slay. Dead kids don't get photographed. God bless our dead Marines.
When the world has set.